France Culture, l'art et l'écriture. Sally Bonne.
Nos gestes sont en train de changer, écrivait Wilhelm Flusser en 1976 dans Les Gestes. Il signalait que le geste d'écrire, entre autres, devenait un geste archaïque, dépassé par les événements et les évolutions techniques. Il est pourtant au cœur de certaines pratiques artistiques contemporaines, qui trouvent dans celui-ci une manière de matérialiser le sens sans le figer. Il y a des artistes qui s'appuient sur l'interrelation entre le dessin et l'écriture, en revenant à leur origine commune. Le verbe grec, graphein, qui a le sens de dessiner et d'écrire, mais aussi de gratter une surface, renouant par là avec une forme d'interaction entre le visuel et le verbal, mettant en évidence leurs racines communes. Un intérêt croissant pour ces questions se fait jour dans de récentes expositions, comme « Écrire en dessinant quand la langue cherche son autre » au Centre d'art contemporain de Genève en 2020, Écrire, c'est dessiner, d'après une idée d'Ethel Adnan au Centre Pompidou-Metz en 2021, et Gribouillage, Scarabocchio, de Léonard de Vinci à Saïtambli, Villa Médicis et Beaux-Arts de Paris, 2022-2023. En entremêlant l'écriture et la pratique plastique, ce n'est plus le texte qui importe, mais ce qu'il a initié. Un mouvement, une dynamique. Il n'est plus question d'un discours, mais d'un geste qui porte le sens. Une suite de gestes, une scription. Cette pratique échappe au surplomb du langage et retrouve une dynamique du sens insoumise. Un acte, une pensée en acte, reconduite par le geste. L'enjeu est-il de faire du geste d'écrire un geste artistique? Si l'ambition récente des artistes à se saisir de l'écriture a été pensée, ce qui apparaît, c'est une tendance à privilégier le geste plutôt que le mot. Cette tendance ouvre une voie nouvelle de ces rapports texte-œuvre dont nous parlons aujourd'hui en compagnie de Francesca Alberti, Agnès Geoffrey et Androula Michael. Androula Michael, vous êtes chercheuse en histoire de l'art, maîtresse de conférences HDR à l'université de Picardie-Jules Verne et spécialiste de Picasso. Agnès Geoffrey, vous êtes artiste, à la croisée de la photographie, de la sculpture et des installations. Votre travail réactive en iconographe les textes et les images. Francesca Alberti, vous êtes directrice du département d'histoire de l'art à la Villa Médicis à Rome, maîtresse de conférences à l'université de Tours et spécialiste de la Renaissance. Je m'étonnerai toujours, en lisant une épreuve, de la netteté des phrases imprimées. Comme si le choix des mots, leur distribution, l'ordre des idées n'avaient donné lieu à aucune hésitation de la main, à aucun flottement de la pensée. C'est une surprise pour le peintre qui écrit. Il a d'autres habitudes. Sur sa toile, qui deviendra le tableau, ce sont au contraire les ratures, les repentirs, les taches et celles aussi des effacements qui forment une part émouvante du visible. Je voudrais aborder avec vous, Francesca Alberti, cette part émouvante du visible dont parle Alechinsky dans un texte qui s'intitule « Titre et pain perdu » édité en 1965. Est-ce que c'est cela que vous avez cherché à montrer dans l'exposition « Gribouillage » dont vous êtes la co-commissaire ?
En effet, Pierre Alechinsky pointe le doigt sur tout ce qui en perd au moment où l'écriture passe au stade de l'imprimé, et c'est-à-dire tous ces retours, tous ces ratages, tous ces effacements qui, pour lui, constituent une part émouvante, en fait, du geste de l'écriture, mais aussi du geste du dessin. Et justement, ce lien entre dessin et écriture prend forme dans cette série qu'il appelle « Écriture trouvée ». Pierre Alechinsky était allé chercher toute une série de papiers utilisés de la fin du 19e ou du 20e siècle dans lesquels on trouve des entêtes, des comptes, des additions, toute une part d'imprimés. Et je dirais ce support écrit, ce support figé, il s'en sert pour faire émerger peut-être ce que l'on ne voit pas et donc faire émerger toute une série de bonhommes, de figures, comme si en fait il donnait à voir cette part invisible qui est celle émouvante, qui est celle de tout ce travail qui amène à l'écriture et au dessin. Et dans cette façon de couvrir, en fait, de jouer, de faire jouer le texte et le dessin dans une sorte de carnaval graphique, il renoue aussi avec des pratiques anciennes qui nous ont intéressés dans l'exposition Gribouillage, qui sont justement les pratiques marginales, c'est-à-dire toute cette profusion de dessin et d'écriture extrêmement spontanée, parfois automatique, parfois très mal dessinée ou mal écrite, les griffonnages, les gribouillages, que l'on voit apparaître au revers des feuilles de dessin des maîtres, sous les marges des manuscrits, souvent sous les pages de garde, dans lesquelles, par exemple, les professionnels de l'écriture essayaient leurs plumes, dans ces essais de plumes qui transforment l'écriture en une profusion d'éléments décoratifs. Alors, on voit comme par exemple, le fait d'essayer une lettre donne lieu à toute une profusion de formes, d'arabesques, de figures, de bonhommes,
de
personnages,
aussi.
De lignes, voilà. Et où on expérimente véritablement le mouvement, en fait. On expérimente la surface, le mouvement fluide du dessiné et de l'écriture. Et c'est ce que Pierre Alechinski, en fait, fait devenir œuvre dans ses propres séries.
Est-ce que cette profusion, ce mouvement, cette énergie là qu'on voit dans les différents dessins depuis des dessins de la Renaissance jusqu'à des œuvres plus contemporaines, est-ce que c'est aussi quelque chose qui relèverait d'une présence du corps ou de la présence de la main?
En effet, on a tendance à penser le dessin comme étant au service d'un projet, c'est-à-dire les dessins depuis la Renaissance a été conçu comme instrument pour donner la forme au dessin, en fait, au projet. Et dans l'exposition Gribouillage Scarabocchi, qui on a essayé de montrer qu'en effet on peut utiliser le dessin de manière autre, en essayant de dégager la force du corps et donc de comment on peut se servir de la main pour faire, en fait, on peut se servir de la main en tant que sismographe, pour faire émerger toute une série de formes, d'images latentes, de lignes que l'on a en soi. Et cette façon de dessiner extrêmement corporelle, de manière très intéressante, on a l'impression que c'est quelque chose de très contemporain, mais finalement, justement, on voit qu'elle a été théorisée déjà par Léonard da Vinci dans ce qu'il a qualifié de componimento inculto, de composition inculte. Justement, cette composition inculte donne la place au corps, et Léonard da Vinci conseillait aux jeunes artistes de s'inspirer des écrivains qui n'hésitaient pas dans leur brouillon à mal écrire et à raturer leur vers. Et donc la rature, la mauvaise écriture, cette façon de laisser libre cours sans trop penser justement aux gestes et à la force de l'écrit ou du dessin, c'est ce que Léonard da Vinci élit comme une façon de pratiquer le dessin pour pas le contraindre à la pensée.
Vous avez parlé d'images latentes, Francesca Alberti, je pense à votre travail, Agnès Geoffrey, dans lequel la main est très présente, ce travail qui croise écriture et photographie, et la main paraît, semble faire le lien entre les mots et les images qui permet de passer d'un espace à un autre. Est-ce qu'elle est pour vous organe de la sensation?
C'est vrai que la main est une figure récurrente dans mon travail, mais elle apparaît la plupart du temps comme un fragment, comme un membre fragmenté, détaché du corps, comme un membre autonome. Évidemment, la main, c'est la limite, c'est la terminaison du corps, mais ce qui m'intéresse dans la figure de la main, même si elle est posée, inactive, c'est toute la dimension de sa dimension de porteuse de possible, comme en attente d'une activation comme ça. Et au-delà du langage des signes, c'est aussi une écriture du mouvement qui m'intéresse, et c'est en ça qu'elle, je la mets pas tant en scène dans sa dimension de une main qui écrit, qu'une main qui suppose des actions en devenir.
Oui, je pense notamment à une de vos pièces dans lequel, enfin une image dans lequel on voit deux mains entrecroisées sur les doigts desquelles sont inscrits des verbes qui invitent à jouer ou à obéir, deux mains qui désignent un espace vide aussi ou qui mesurent ou qui tiennent à un objet invisible. On parlait d'images latentes, il y a quelque chose comme ça qui est aussi en suspens en fait dans votre travail, et cette main comme organe de la sensation ou de l'action comme vous le dites, et aussi d'une certaine manière l'alliance d'une gestualité et d'une textualité.
Oui, et toute l'ambivalence de posture, de geste que suppose la main. Une main, elle reçoit, elle donne, elle tient, elle abandonne, elle caresse, elle frappe. Voilà, c'est toute cette dualité ou ces zones grises comme ça dans des gestes que je mets en scène dans mes images ou comme vous l'avez évoqué, ou parfois je réappose un langage impératif sur des gants ou sur des mains comment l'injonction suppose l'action, comment le langage impératif suppose le performatif.
Andrew Lamical, vous avez travaillé sur Picasso poète et organisé sur ce même thème une très belle exposition au musée Picasso. Chez Picasso, l'écriture, y compris dans les brouillons, procède de ce que vous appelez un geste dessinant. Les lignes tressées, emmêlées, évoluent dans l'espace de la page, tracent des chemins, se plient et se déplient. Est-ce que ces gestes-là, qui sont des gestes d'écriture, sont-ils chez Picasso la trace de la main ?
Absolument. La trace de la main de Picasso est toujours présente, en fait, sur la scène de l'écriture. On sait que Picasso a dessiné sa main, il a fait des moulages, donc il a annoncé à un moment donné que la main, à un moment donné, à force de travailler, travaille toute seule. Et la main, effectivement, dessine et écrit et dessine en même temps, de sorte qu'il fait une écriture dessinée et un dessin écrit. Donc on voit parfois des pages manuscrites où il y a un portrait dessiné comme avec une écriture tricotée, j'ai appelé une écriture tricotée, et une écriture qui est aussi un dessin. Mais pour revenir à la question de la main présente vraiment dans la scène de l'écriture, j'aimerais bien donner une petite référence de Picasso dans un tout petit carnet bleu qui est un carnet de poche que Picasso a utilisé pour écrire le premier jet de ses écrits, où il met en avant véritablement sa main, et là j'ai eu une des émotions les plus grandes en tant que chercheuse au moment où j'ai lisé ce texte manuscrit, et je me suis prise à refaire exactement le même geste de Picasso, exactement. Il dit à midi, nager nu au soleil à midi et faire un gros chevalet d'un grand bruit de mille tonnerres. Toutefois qu'assis, écrivant sur son petit carnet, les coudes débordant un peu plus l'un que l'autre la ligne de la table, la main gauche tenant la feuille déjà écrite et l'autre sur le papier, la pointe du crayon ici où j'appuie, festant qu'énervent les piqûres de pouls qui m'indiquent le temps qui passe et font semblant de lire et ne pensent à autre chose qu'à jouer entre eux et à ces jouets de moi qui suis un voile ce soir à 5h-10. Etc., etc. Donc, cette écriture située toujours dans le présent, située toujours au moment où elle est en train de se faire. En fait, l'écriture est vraiment presque, je dirais, son propre sujet. Donc, il énonce ce qu'il est en train de faire. Donc, il est pleinement dans le geste de l'écriture qui, pour Picasso, est une véritable pratique de jouissance. Véritablement. Et de cette façon, il est en train de faire toujours une écriture qui est comme un dessin, qui est comme une marche, qui est comme une marche qui dessine un paysage, en fait. Mmh. Et c'est... il y a plein d'autres références sur sa main. L'ombre portée de sa main droite pointe son bec. La main fait l'ombre portée que la lumière lui laissait faire. Coup des massues de l'ombre portée du passage d'une main, etc., etc. Donc, vraiment, sa main est là, son corps aussi, à un moment donné, dans un lieu précis et dans un temps véritablement précis.
Ce qui est touchant dans ce que vous évoquez, dans le texte que vous avez lu de Picasso, mais aussi dans ce qu'on voit dans ces poèmes qui sont à la fois des textes et des dessins, comme ce qu'on voit dans toute l'exposition Gribouillage depuis des dessins de Léonard de Vinci, et puis ces gestes comme ça, ou dans votre travail, Agnès Geoffrey, c'est aussi cette possibilité que ce qui relève de l'écriture n'appartient pas uniquement au domaine de l'esprit, et que le corps est présent, hein, et que ce corps-là, par la main, par le gribouillage, par la présence même de la main, de l'ombre portée, comme vous l'évoquez, Andrew Lamical, c'est cette dimension à la fois plastique, corporelle, sensible et plastique de l'écriture.
Absolument. Je donnerai un autre exemple dans ce sens, la poésie des mots inconnus. Donc, il y a tout un travail sur des mots de mots illisibles, de mots inconnus, qu'il dessine à l'encre de Chine sur le papier. On sait que Picasso disait que s'il était chinois, il ne serait pas peintre mais écrivain et qu'il écrirait ses tableaux. Donc il fait de ces pages d'écriture inconnues, illisibles, les traces justement de l'écriture comme un sens autre que celui du sens habituel de mots. Donc il ne transmet pas un sens, mais les mots restent quand même des mots illisibles. Donc il est attaché justement à ce plaisir de la main à dessiner une écriture qui ne transmet aucun sens. Et du coup, il est pleinement en fait dans cette posture du corps qui se manifeste vraiment dans l'acte d'écrire.
Voilà, ça me faisait penser à ce que disait Paul Klee à propos du plaisir du dessin. Et c'est cette ligne qui part en promenade sans but. Et donc cette idée, ce plaisir de la ligne, ou encore Nancy dans le plaisir du dessin qui disait que dessiner, c'est d'abord désirer. Et donc il y a ce désir de ligne, désir d'écriture avant même de la pensée.
Tout à fait. Et c'est un désir d'écriture et des lignes qui se promènent, qui forment un paysage chez Picasso. Et du coup, formellement, l'écriture n'a pas de limite, n'a pas de ponctuation. Donc, elle déborde, en fait, du cadre, justement parce que c'est une ligne qui part se promener. Et donc, Picasso, on pourrait dire que dans un geste et comportement de résistance face à la transformation du geste continu en une succession de traits connectés, il privilégie, en fait, les gestes continus, la phrase ininterrompue, l'absence de ponctuation et le refus de fragmenter, finalement, le geste. Donc, une obstination à garder la fluidité du mouvement.
Tout cela n'avait d'autre valeur momentanée pour moi que de m'entretenir la main, écrivait Stéphane Mallarmé à Paul Verlaine en 1885. Cet entretien de la main, c'est aussi ce geste de l'écriture est aussi cet entretien de la main.
Et la préciosité de la main, quand il disait « je ne caresse jamais un chien avec la main avec laquelle j'écris et je dessine ».
C'est intéressant parce que cette question de l'entretien de la main est, je pense, centrale aussi dans la question du gribouillage et des débordements graphiques, du fait que on s'aperçoit que beaucoup de ces dessins, de ces proto-caricatures, de ces arabesques, de ces lignes sinueuses, finalement, sont des exercices pour libérer la main, en fait, libérer le geste, créer la fluidité. Alors, c'est des gestes que l'on connaît d'autres, aussi bien pour des professionnels de l'écriture. Alors, on les voit par exemple dans les pages de garde des notaires ou des scribes ou des copistes, et d'autre part chez les artistes. Les artistes qui, pour doser en fait l'ancrage, pour trouver la force en fait d'incision, même dans le geste du burin, dans le geste graphique des estampes, doivent l'essayer. Et dans ces moments d'entretien, d'essai, ils donnent libre cours à tout un autre registre graphique qui est celui du gribouillage, qui n'est pas celui forcément du dessin.
C'est le murmure de ta voix qui me remplit de joie.
Wenn die Gräser sprossen wollen, weht da hier ein lauer Wind und das zerspringt in Schollen und ihr weicher Schnee zerrinnt. Und ihr weicher Schnee zerrinnt.
France Culture, l'art et l'écriture. Sally Bonne.
L'écriture est un geste archaïque, enraciné dans le domaine du visuel où le corps est présent. Et quand les artistes s'en emparent, c'est parfois avec les mêmes outils. Vous avez évoqué Francesca Alberti, le burin, le geste de creuser, c'est tous ces outils de l'écriture qui appartiennent aussi au registre artistique. On voit poindre des formes qui résultent de gestes qui puissent parfois, dans une histoire longue du travail de la main, qui n'exclut pas pour autant des outils machiniques et numériques, et ce qui semble se maintenir, ce n'est pas tant le mot que sa trace, pas tant la phrase que le geste d'inscription. Agnès Jaufray, beaucoup de vos œuvres font apparaître des gestes d'écriture, hein, et je pense notamment à deux séries en particulier, l'une qui s'intitule « Les messagers » et une autre qui s'intitule « Les télégrammes ». Dans les deux cas, si l'image est à la fois le support et la forme finale, ce qui est à voir devient ici à lire, et c'est le geste d'écrire qui semble au centre de l'image. Quelle place ont les gestes d'écriture dans votre pratique artistique ?
Dans mon travail plastique, je navigue aussi bien entre l'écriture manuscrite, mais aussi d'autres procédés d'écriture, comme une écriture photographique, tapuscrite, des textes grattés, comme vous l'avez évoqué, ou des textes brodés. Et pour la série Les messagers, en fait, pour la décrire rapidement, ce sont des écritures microscopiques que j'ai écrit en taillant un critérium, donc en étant dans un outil le plus fin possible, que j'ai écrit sur divers bouts de papier. Je voulais travailler autour de tous ces messages cachés, dissimulés, tous ces messages de passage, tous ces messages qui se dérobent et qui résistent. L'origine de ce travail est divers. C'est à la fois la rencontre des sculptures involontaires de Dali, ces petites sculptures de poche qui ont été photographiées par Brassailles, qui sont en fait des papiers triturés, déchirés, qui ont été refotographiés. À la fois la rencontre des microgrammes de Robert Walser, cet écrivain suisse, où on a découvert ce qu'on a appelé voilà, les microgrammes, donc tous ces textes qui étaient apposés sur différents types de papiers, qui étaient destinés au rebut, c'était souvent des papiers administratifs ou autres, des petits. Et c'était des textes microscopiques écrits au crayon que pendant longtemps on a cru coder parce que l'écriture était tellement miniaturisée et surtout déliée. Les lettres étaient tellement déliées et l'écriture lâchée qu'on a cru que c'était une écriture secrète qui était un déchiffrage jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'était de l'allemand. Et donc voilà, c'était cette approche d'une écriture dissimulée comme ça pour une pensée qui se dérobe, pour une pensée à soi, ce qui renvoie à cette idée de la pensée comme brouillon avant d'être révélée, redonnée à lire, à voir aux autres. Et surtout, la troisième référence qui a été à l'origine du travail des messagers, c'est l'ouvrage de Michel Borowitz, écrit des condamnés à mort sous l'occupation nazie. Ça a été la publication de sa thèse au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il a été un membre actif de la résistance polonaise et il fut emprisonné en 1942 dans un camp de concentration à Janowska, où il a fait acte de résistance. Donc voilà, ces tout petits papiers de quelques centimètres, manuscrits par ma main, par mes soins, c'était penser l'écriture comme un ultime acte de résistance quand il reste plus rien, c'est-à-dire que face à l'oppression, face au régime totalitaire, pénitentiaire, concentrationnaire, c'était penser l'écriture comme une force ultime.
Cette écriture, elle apparaît sur des images parfois ou sur des supports particuliers.
Voilà, oui. En fait, j'avais collecté différents fragments, extraits de textes qui émanaient de résistants, de prisonniers et de déportés. Par exemple, sur un petit bout de mouchoir en papier tout petit, j'avais écrit « Caresse-moi, câline-moi, embrasse-moi, c'est peut-être la dernière fois ». Et cet extrait provient d'un fragment d'une lettre d'un poilu qu'il avait adressée à sa fiancée. Donc ça, c'est juste un support papier, le mouchoir, qui est voilà sur une photographie anonyme, très petite, dentelée, telle qu'on peut les connaître dans les photographies familiales anciennes. J'avais réapposé une phrase qui est celle-ci. « Je voudrais tant que tu survives à cette guerre et à cette époque sans être une créature. » C'est un extrait d'une lettre de Sophie Scholl adressée à son frère Hans, qui a été enrôlé dans les jeunesses hitlériennes. Et tous les deux faisaient partie, étaient membres de la cellule résistance de la Rose Blanche. Et en fait, la lecture de leur correspondance a donné lieu à différents extraits manuscrits comme ça dans Les Messagers, parce que c'était des... Voilà, c'était des vraies paroles de lutte contre, de résistance. Donc voilà, dans ces petits papiers manuscrits qu'il faut lire à la loupe, même si on ne sait pas toujours quelle est la source du texte, on comprend que c'est faire face. C'est des textes qui font face.
Le geste d'écriture, alors, il est aussi, il porte aussi une dimension mémorielle.
Disons que pour lire les textes, il faut forcer le regard. C'est-à-dire, il faut s'approcher, il faut porter attention. Et donc, ça procède à la fois, moi, de mon acte, qui est de remanuturiser ces écritures, donc de passer du temps, de prendre soin, d'être appliqué à retranscrire ces messages, mais à la fois, de la part du regardeur, c'est aussi de porter attention par le regard, moi par le geste et lui par le regard.
Alors, il y a une autre série que j'ai évoquée tout à l'heure qui s'intitule « Les télégrammes ». Et là, on n'est plus du tout dans le geste manuscrit,
oui. Hein,
et encore moins dans la miniature.
Oui.
On est plutôt, j'évoquais les outils machiniques tout à l'heure, on est plutôt dans la machine.
Oui.
D'où provient en fait cette série des télégrammes et comment elle s'inscrit dans cette perspective qui est la vôtre de ces gestes d'écriture ?
Alors, en effet, les télégrammes, j'ai acheté des vieux télégrammes dont j'ai enlevé les bandes de tapuscrite originelle. J'ai écrit mes propres messages sur ces télégrammes achetés.
Vos propres messages, ça veut dire que ce sont des textes que vous écrivez.
Voilà, oui, pardon. Mmh. Oui. Que j'ai écrit avec ma machine à écrire, que j'ai chez moi. Et en effet, c'est une écriture mécanisée, qui est hachée, qui est bruyante, parce que la machine à écrire, c'est du bruit. Et qui, si on le souhaite, parce que vous parliez des ratures, des erreurs qui sont souvent magnifiques, mais en tout cas, là, qui ne permet aucune erreur. C'est l'erreur, le ratage, toute erreur est indélébile, on doit recommencer. Donc, à la fois, ça peut être assez laborieux, comme ça, d'écrire. Mais ce qui m'intéressait dans les textes qui figurent dans les télégrammes et que j'ai retranscrits à partir de mes propres textes, c'est cette idée d'une écriture elliptique, syncopée. En fait, on m'avait invité, Stéphanie Jamais et Vanessa Desclos m'avaient invité à travailler autour de la question de la syncope. Alors la syncope, évidemment, c'est une perte de connaissance immédiate et brève en termes médicaux, mais la syncope, on la retrouve aussi en poésie, en musique.
Oui.
En danse. Par exemple, la valse, c'est parce qu'il y a rupture qu'il y a la possibilité d'un recommencement. Donc la syncope, c'est un état de rupture qui permet le recommencement. Et les télégrammes, en fait, on facturait au mot, donc il fallait être très très synthétique, c'est-à-dire relater un événement de la façon la plus immédiate et synthétique possible. C'était souvent écrit dans un état d'urgence, urgence amoureuse, urgence médicale, sinon on écrivait des lettres manuscrites. C'est en ça que ça m'intéresse, c'est que c'est un texte qui est fait de manque. Je peux vous en lire quelques-uns. Ne le regarde pas, stop. Ne lui parle pas, stop. Ne l'approche pas. Stop. La mer est noire. Avenir amer. Qu'allons-nous devenir? Tu mens. Aucune peur. Seulement le vertige. Voilà, c'est un texte fait de manque. Et c'est parce qu'il y a manque et absence qu'il y a projection narrative.
Donc là, en l'occurrence, le geste d'écriture qui est le vôtre, et qui est aussi un geste poétique, en fait, devient un geste artistique.
Oui, disons que c'est comme des petites poésies du quotidien, qui peuvent être factuelles ou parfois plus poétiques, mais c'est aussi vraiment l'attrait de cet objet qu'est la machine à écrire, qui est fabuleux. Et Sylvia Plath, d'ailleurs, disait que la machine à écrire est une extension de son corps. Et bon, ce n'est pas mon cas, mais je trouvais ça assez magnifique.
Androula Michael, votre fréquentation de l'œuvre écrite de Picasso, comme plus récemment celle de Duchamp, deux artistes aux pratiques d'écriture à la fois importantes et multiples, vous ferait-elle parler justement du geste d'écrire comme d'un geste artistique ?
Tout à fait, même si pour Picasso et Duchamp, les gestes écrivants procèdent d'une autre intention. Picasso est amoureux du geste, de sa main, de l'écriture, du moment où il entre en fait dans le flux, donc de la création. Duchamp refuse en fait ce plaisir, refuse le plaisir de la main, refuse la patte, comme il dit, c'est-à-dire la trace donc de l'originalité, de la personnalité de l'auteur. Et il écrit des textes qui ne sont pas pour moi moins des poèmes, ils sont autant de poèmes. Ses notes, par exemple, pour le Grand Vert, ce sont pour moi des poésies mais qui sont réfléchies, qui sont liées à un geste artistique. Et ces gestes artistiques passent à la fois par les mots et par les schémas, les dessins qu'il imagine pour le grand œuvre à venir. Mais on peut le voir également comme des poésies à part entière. Donc il y a deux façons différentes de faire de l'écriture un geste artistique.
Francesca Alberti, la pratique du gribouillage que vous avez longuement étudiée depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui, à travers dessins en marge, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les graffitis sur les murs, les dessins régressifs ou altérés, est-ce que tous ces gestes vous paraissent-ils relever justement d'un geste artistique ?
Certainement, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde, on regarde la pratique du gribouillage et des graffitis, c'est qu'on s'aperçoit que quelque chose qui était marginal, marginalisé et qui intéresse les artistes dès l'époque prémoderne, peu à peu, en fait, travaille le centre depuis la marge et devient en quelque sorte un idiome artistique au courant du XXe siècle, en fait, de la fin du XIXe siècle et au courant du XXe siècle. C'est le cas, par exemple, des graffitis, qui pour moi sont un exemple extrêmement intéressant, puisque la frontière entre dessin et écriture dans le graffiti quasiment n'existe pas. On peut passer de l'un à l'autre. Ce que l'on voit dans la graffiti et ce qui a particulièrement intéressé les artistes, c'est cette archéologie pulsionnelle, en fait, ce rapport à la surface, ce rapport inscriptif. Et là-dedans, je dirais, la grammaire visuelle, c'est plutôt une grammaire faite de gestes, mais évidemment aussi de signes qui, voilà, articulent dessin et d'écriture de manière extrêmement continuelle, fluide. Et on s'aperçoit véritablement que il y a eu une récupération de ces pratiques graphiques à partir de la après-guerre de la part de plusieurs artistes à la fois français, italiens, américains. Tout à l'heure, on citait Brassailles qui avait en fait sillonné la ville de Paris et essayé de capter avec son objectif tous les graffitis de la Paris de son époque. D'ailleurs, en notant dans ses carnets, d'abord, il dessinait ses graffitis et il annotait le nom des rues où il fallait revenir avec sa caméra. Mais ce que Brassailles voit dans ses graffitis contemporains, c'est la résurgence d'un geste archaïque. Et d'une part, c'est intéressant puisqu'il a photographié autant la ville de Paris contemporaine que, par exemple, les graffitis de Pompéi, puisque pour lui, il y avait cette continuité temporelle que le geste permettait de recréer. Mais aussi, il écrit, notamment dans cette revue Minotaure, en parlant justement de ses graffitis, il intitule un de ses articles où il publie ses premières photographies du mur des cavernes au mur des usines. Donc voilà, cette idée que dans ce rapport en fait au graphisme, on trouve en fait les sources de ce désir d'inscrire qui est à la source à la fois du dessin et de l'écriture. Et ça vraiment cette revalorisation d'une écriture marginalisée et d'un dessin marginalisé, quelque chose qu'on sent comme une tendance très forte au courant du XXe siècle. Je citais le cas de Brassailles, mais Hélène Levitt fait quelque chose de très semblable dans la New York des années 30, en photographiant justement les graffitis et les enfants, en fait, avec des craies, dessinent sur le goudron, en fait, des rues. Ou encore, même des designers comme Charlotte Perriand a réalisé en fait des tapis en partant de graffitis qu'elle avait pu voir au Japon sur le bord des quais des bateaux. Donc voilà, on s'aperçoit vraiment que là-dedans, on trouve quelque chose et il faudrait s'interroger sur que ce que en fait les artistes trouvent dans ce rapport au mur, dans ce rapport à ces formes d'écriture et de dessin qui sont celles populaires, qui sont celles de l'homme, de la femme du commun, en fait, c'est celles de tout le monde. Ben, ils y retrouvent un rapport, en fait, à la pratique inscriptive qui est extrêmement intéressant puisque elle est chargée d'affect. Et je crois que cette dimension d'affect, cette pouvoir émotif de ce type de forme d'écriture et de dessin, c'est ce que intéresse voilà des artistes. Et puis évidemment, on parlait tout à l'heure de Cy Twombly, de Jean-Miguel Basquiat, mais voilà de plusieurs artistes et qui essaient de récupérer ce type de rapport à la surface.
Ce qui est intéressant dans toutes les images, notamment celle de Brassailles, mais pas uniquement de ces graffitis, c'est aussi on voit comment le rapport au mur est à la fois celui d'une tentative de dessin ou de gestes dessinés et d'écriture, mais aussi de gratter, de graver, de cette question de l'inscription, elle le spectre en fait du geste d'inscription, il va aussi bien de la notation très rapide, avec cette idée aussi qui sous-tend toujours le graffiti lui-même, c'est-à-dire c'est la rapidité du geste, c'est la rue, c'est le corps en mouvement aussi, et donc ce qui est intéressant c'est ce rapport-là en fait entre ce geste qui passe dessus, mais qui creuse aussi.
C'est laisser trace aussi pour les autres, pour ceux qui suivent. Par exemple, en prison, le graffiti, c'est aussi ça. C'est pour soi, c'est un espace pour soi, mais c'est aussi un espace à destination vraiment des autres, que ce soit dans l'espace de prison ou dans l'espace public.
Il y a aussi un aspect, je trouve que c'est que dans le graffiti, on voit la puissance créative de la destruction. C'est-à-dire que pour inciser un mur, pour écrire sur un mur, souvent on écrit par-dessus, ou bien on creuse et on détruit. Et donc là, il y a cette force créative de l'altération, et c'est quelque chose là qui est prépondérante parce qu'il y a aussi une agressivité. En fait, on vient se confronter à la surface. Alors, on peut se confronter à la surface d'un mur, par exemple chez un artiste tel que Cy Twombly, on reproduit ce geste inscriptif, on peut le refaire sur du papier, on peut le refaire aussi sur des toiles. Donc comment on s'empare en fait de ce rapport et de cette manière d'essayer la surface, c'est quelque chose qui intéresse justement...
Et justement, le graffiti implique deux gestes différents, à la fois de caresse et de violence. Et on les voit dans les différents outils qu'utilise par exemple Picasso pour écrire, à la fois faire des textes gravés, donc avec toute la violence du geste que ça implique pour graver des lettres, et sinon la question de la fluidité de l'écriture sur un autre support. Mais pour revenir à la notion de gribouillage, peut-être évoquer, disait Picasso, que j'aime les gribouillages quand ça fait des cheveux. Et justement, dans les graffitis et dans ces écritures, on voit que quelque chose surgit, en fait, d'un espace du côté du visible. Ce n'est jamais des lignes, en fait, abstraites qui sont dessinées.
France Culture, l'art et l'écriture. Sally Bonne.
Qu'est-ce qu'un geste? Quelque chose comme le supplément d'un acte, écrit Roland Barthes à propos du peintre américain Cy Twombly. Pour cette troisième partie de l'émission, je voudrais interroger cette question de l'acte, justement, et de la possibilité que le geste artistique soit une pensée en acte. Parce qu'il me semble qu'en reconfigurant un territoire qui n'emprunte plus au langage directement, mais qui le dépasse dans le temps pour aller vers ses origines, ces gestes archaïques, on parlait des graffitis de Pompéi tout à l'heure, les gestes d'écriture dans les pratiques plastiques renvoient à une dynamique du sens, qu'on pourrait dire insoumise, qui échapperait au surplomb du langage. Tel que l'avait pensé Merleau-Ponty, et qui permettrait, pour reprendre une formule empruntée au philosophe Michel Guérin dans sa philosophie du geste, de signifier à même le corps. Est-ce qu'on peut penser la scription, qui est une terminologie qui me semble s'appliquer aux nouvelles pratiques d'écriture des artistes, peut-on penser la scription comme la forme et le nom d'une pensée en acte qui se déploie par le biais de la main, de la trace, de la machine et du corps. Dans les dessins d'Henri Michaud, qu'on voit d'ailleurs dans l'exposition Gribouillage, le geste d'écriture, délivré de la nécessité de dire, est la trace physique d'une énergie. Cette énergie, on la retrouve indéniablement dans les dessins et les poèmes de Picasso. Andrew Lamichael, est-ce que le geste d'écriture chez Picasso relève d'une pensée en acte ?
Tout à fait. Picasso est toujours en acte quand il écrit, quand il dessine, mais quand il écrit encore plus. Et je prendrai deux exemples, à la fois celui de la traduction. Quand il passe de l'espagnol au français, et parce qu'il commence d'abord son écriture en 35 en espagnol, il fait une réflexion sur la traduction et qui fait suite à ses autres textes. Il dit par exemple, si je pense dans une langue et j'écris « le chien court derrière le lièvre dans le bois », et veut le traduire dans une autre, je dois dire, la table en bois blanc enfonce ses pattes dans le sable et meurt presque de peur de se savoir s'y saute. Donc, en écrivant, il interroge évidemment le sens du geste de l'écriture elle-même en train de se faire, et il voit la langue un peu comme une maison à habiter autrement quand on la pratique dans une autre langue. Et c'est là où la question de l'erreur, justement, relève de cet antidote, peut-être le plus puissant, contre l'autorité de la syntaxe, contre l'autorité donc du sens de l'écriture, donc parce que l'écriture est une pensée, un acte. Il ne faut ni l'interrompre, ni la corriger, ni justement lui mettre des limites autoritaires. J'aimerais bien le comparer ici avec Duchamp, par exemple, parce que tous les deux écrivent dans un environnement linguistique qui n'est pas le leur. Donc Duchamp écrit en anglais alors qu'il ne connaît pas l'anglais et il habite aux États-Unis. Et Picasso écrit en français, en espagnol, en étant en France. Donc leur pensée en acte passe par l'écriture, par les jeux de mots, par la façon de pervertir, je dirais, la syntaxe et jouer avec les mots. Je donne un exemple de Duchamp quand il dit « salissé prononce salissaise ». Maisance, chaussette, pronounce, chaussette, etc. Donc, ils sont en train de dévoiler leur pensée théorique sur la création par la création elle-même. C'est-à-dire, même Duchamp, qui pourtant a beaucoup plus écrit de façon théorique et parlé de façon plus théorique que Picasso, c'est un acte, en fait, où il montre cette façon de minorer, finalement, la langue, donc d'écrire une nouvelle langue dans la langue par création de syntaxe. En fait, c'est ça. Et cette pensée en acte, elle est fondamentale pour les deux. Et j'ai trouvé le rapprochement avec Saïtombly très intéressant, car il y a aussi chez lui cette inscription un acte dans le présent, quand il note vraiment les lieux où il écrit, des mots illisibles, et tout d'un coup, il suit des chiffres, des mots qui sont sur la surface. Donc, le passage de quelque chose que l'on connaît, un geste écrivant, mais qui n'évoque pas de sens, et en même temps, quelque chose qui évoque un sens. On joue, en fait, toujours, on est entre les deux, entre un sens qui est là, un sens qui est absent, et c'est une façon, je dirais, de termes plus contemporains, ils sont tous les deux en train de décoloniser vraiment l'écriture de l'autorité du sens.
Oui, les artistes développent des stratégies d'effacement ou au contraire de matérialisation de la langue en creusant dans l'histoire des gestes. Est-ce que ce serait une manière d'échapper à ce que Deleuze appelait la logique du sens, Francesca Alberti?
Certainement, je pensais à ce que disait Androla, la question de se défaire de l'autorité, je pensais au rapport avec la rature. Et justement à ce que Derrida développe sur cette idée de écrire sous rature, c'est-à-dire que la syntaxe, la contrainte du langage empêche en fait souvent à la pensée de se déployer, de se développer. Et souvent il y a cette incohérence entre la rapidité de nos pensées et ce qu'on arrive à écrire en fait, à traduire par l'écrit. Et du coup, l'espace sous rature serait un espace fertile, serait pas un espace qui ordonne, qui organise, mais ce serait plutôt un espèce de jaillissement. Et cette idée de la rature pensée comme une force créative, une façon de faire émerger ce que on oblitère, c'est quelque chose que Barthes pensait à l'origine de la littérature lorsque par jeu de mots il dit la littérature c'est la rature. Et littérature, donc littérature, pour parler de cette écriture, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et que l'on voit se mettre en œuvre pour toute autre raison, par exemple, chez Jean-Miguel Basquiat. Justement, qui reprend ce langage de la rue, ce langage violent de la rue, des ratures, des choses qui sont oblitérées, effacées, contraintes, de l'autorité, de la marque, justement de la rature. Et il s'en sert et il a fait devenir une marque auctoriale, c'est-à-dire qu'il se sert de la rature pour faire voir ce qui est oblitéré, ce qui est caché, ce qui est effacé. Donc il y a en effet cette idée de décoloniser le langage pictural ou le langage graphique. Et justement, il parle du paradoxe de la rature en disant « Je biffe les mots afin que tu les vois davantage. Le fait qu'ils soient obscurcis te donne envie de les lire. » Et donc ce que nous cachons, ce que nous oblitérons, en fait, on le fait réémerger justement parce qu'on le souligne davantage. Et c'est toute cette pratique, cette façon de repenser le rapport à la peinture qui met en œuvre Basquiat en s'emparant du langage de la rue.
Est-ce que, en s'emparant du langage de la rue, il déjoue aussi le sens qui serait le sens peut-être de l'histoire de l'art?
Oui, bien sûr. Il y a une façon, en effet, de faire émerger les marges, de les faire réjaillir en fait dans cette pratique d'un langage qui n'est pas celui officiel, qu'un à la fois un langage en fait de signes, d'images, qui ne vient pas de l'académisme, de la pratique du dessin, et qui en fait sont ceux qu'il retrouve et qu'il lui-même il pratiquait en tant que dans les rues en fait en tant que graffiteur, parce que lui-même en fait à la bombe il graffitait toute une série de signes, d'écriture qu'il fait revenir sur la surface officielle de la peinture ou de la feuille du dessin. Et donc il y a une façon en effet de déconstruire l'histoire de l'art et aussi de montrer ceux et celles qui étaient cachés par l'histoire de l'art. Alors ça, c'est on le voit beaucoup dans un certain nombre d'œuvres qu'on a exposées dans l'exposition de Gribouillage, par exemple à Paris, derrière toute une série d'écritures qui renvoient en fait notamment aux enseignes lumineuses qu'on trouvait dans la New York des années 70, on voit toute une architecture précolombienne, et justement en fait elle est cachée au centre de l'œuvre par une série d'écritures officielles qui étaient celles de la rue, mais elle émerge de derrière, en fait, du fond de ce dessin. Et donc, c'est cette idée de remettre en avant toutes ces populations que, dans l'Amérique, justement, des années 70, c'était des populations marginales. Donc, il y a aussi ce discours politique qui emprunte, en fait, le langage des rues et le langage des signes de la rue.
Justement, est-ce que échapper à la logique du sens, d'une certaine manière, on peut aussi, par là même, déjouer le sens de l'histoire? Et je voulais interroger ce rapport à l'histoire. Est-ce que les gestes d'écriture ne sont-ils pas une manière de déjouer l'idée moderniste d'un progrès de l'art, en allant justement puiser dans une histoire des gestes qui remonte à l'origine? Agnès Geoffrey, dans votre série justement Les Messagers dont on parlait tout à l'heure, la main qui écrit reprend un geste ancien, un geste de résistance, vous l'avez évoqué, un geste de lutte, et souvent dans vos pièces, on trouve ce rapport à une histoire à laquelle la main de l'être humain peut résister. Je pense notamment à une série sur d'écritures tapuscrites sur des morceaux de soie, oui. De soldats sans nom, il
oui,
me semble.
Oui, d'un soldat Anaman. En fait, je suis partie des tracts résistants qu'avaient élaborés Claude Cahun et Suzanne Malherbe, la compagne de Claude Cahun, quand elle s'était réfugiée sur l'île anglo-normande de Jersey pour échapper à la future occupation nazie. Et il s'avère qu'en fait, les îles anglo-normandes ont été le seul espace britannique occupé par les Allemands. Et donc face à cette occupation, elles avaient écrit sur du papier pelure, tapé à la machine, des tracts résistants qui remettaient en avant justement la culture allemande pour faire face à la déliquescence de ce régime nazi. Vu qu'elles étaient artistes toutes les deux, en fait, il y a une certaine forme dans ces messages tapuscrits de mise en page. Mais ce qui m'avait touchée et ce qui avait motivé le travail, c'est qu'en fait, elles déposaient ces tracts dans les vestes des soldats allemands, dans leurs étuis à cigarettes, dans les cafés. En fait, elles allaient au plus près du corps de l'ennemi, de l'autre. Et elles écrivaient en allemand, elles signaient le soldat sans nom en allemand pour faire croire que c'était une cellule résistance interne à l'armée allemande. Et en fait, moi, mon acte d'auteur a été de retaper à l'identique ces tracts tapuscrits sur des morceaux de soie, parce que la soie était utilisée depuis le début du XXe siècle, comme un support de transmission aussi bien dans justement les cellules résistantes que dans les cellules d'espionnage, parce qu'on pouvait les dissimuler à l'intérieur des doublures de vêtements, ça ne faisait pas de bruit, ça ne se détériorait pas en temps de pluie. Et c'était aussi le fait d'utiliser la soie, c'était redonner aussi une forme de noblesse à ces papiers pauvres que sont le papier pelure, et redonner toute leur importance à ces actes de résistance. Mais je suis venue à ça par la lecture des écrits de Claude Cahun. C'est son travail d'écriture qui m'a emmenée à rencontrer son travail de résistance et à le remettre en circulation, à le redonner à voir.
Et est-ce que justement vous seriez d'accord avec cette idée que par là, cette remontée des gestes qui sont des gestes plus anciens, comme les pigeogrammes qui vous servent à faire les messagers par exemple, ou là ce geste politique aussi
De transmission,
de transmission
de messages
serait
cachés.
Aussi une manière peut-être d'interroger cette question d'une continuité logique du sens de l'histoire. C'est-à-dire que finalement, on peut aller puiser en fait dans une histoire assez récente finalement, mais aussi bien plus ancienne.
Quand vous parlez de pratiques plus anciennes, j'en reviendrai à mon travail qui s'appelle Surveillance, où en fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, où j'attaque un mur. Je grave un mur, mais vraiment je l'attaque pour faire émerger une phrase comme ça, qui est un fragment de texte de Bernard-Marie Coltès. Donc c'est revenir aux prémices de ce qu'est l'écriture, à savoir d'entailler, de graver, d'attaquer la matière pour en faire émerger
là, quoi,
un sens.
C'est au burin, c'est,
oui,
enfin,
c'est
en les fait, outils eux-mêmes
oui, c'est
sont
avec
importants.
Des petits burins qui sont destinés normalement à la gravure justement. Donc muni de ces petits burins et d'un marteau, j'attaque le mur pour faire émerger. Donc en fait, le mur est peint d'une couleur et c'est parce que je l'attaque que le blanc du mur réapparaît en creux. Donc c'est un texte en creux.
Est-ce que ce rapport à l'histoire et cette manière de déjouer, cette possibilité que le geste d'écriture déjoue l'idée moderniste d'un progrès de l'art, vous semble correspondre aussi à la démarche de Picasso, par exemple, Andrew Lamichael?
Oui, absolument. Dans le sens où Picasso, avec son écriture, il redonne en fait à l'écriture sa voix. C'est-à-dire, ce n'est plus une connexion des points, justement, qui ont été imposés par la notion donc d'une écriture, du progrès, d'une écriture même à la machine, donc une écriture qui serait décomposée en plusieurs morceaux, donc il lui redonne la fluidité de la voix comme elle avait auparavant. Donc c'est, comme le disait Francesca tout à l'heure, c'est aussi un acte politique, en fait, d'écrire d'une certaine manière, de revendiquer les erreurs, de dire que je suis un écrivain qui ne sait pas écrire. Donc, revendiquer, en fait, un rapport à l'écriture beaucoup plus près du corps, finalement, d'une pensée, un acte, comme on disait tout à l'heure, et pas du tout une écriture pour transmettre une information. Duchamp disait d'ailleurs qu'il se méfiait toujours du langage et de la communication, et que dès qu'on parle, dès qu'on essaie d'expliquer quelque chose, on se trompe. Donc, retrouver, en fait, le propre de l'écriture qui n'est pas juste là pour communiquer un sens, mais qui impose une présence pour elle-même comme un acte du corps en soi. Et cela ne veut pas dire, chez Picasso, qu'il n'y a aucun sens dans ce qu'il écrit, mais il y a cette idée, comme il le faisait avec la peinture, de déconstruire en fait complètement le langage, de lui faire faire des pirouettes, de le mettre au ras du sol. Donc, c'est une façon de libérer finalement la pensée de la création. Donc, une façon de revenir aux fondamentaux de l'écriture et de l'art qui induit aussi un jeu. Je pense qu'on oublie souvent cette idée du jeu.
J-E-U.
Oui, tout à fait. Tout à fait, dans l'écriture, qu'on voit très bien aussi dans beaucoup d'artistes. Dans l'exposition Gribouillage, magnifique exposition, et notamment Saïtombly, je reviens encore à lui, parce qu'on voit véritablement cette pensée, un acte, cette jouissance finalement de l'écriture, qui passe par une minoration de la langue au point de la rendre invisible, de la rendre illisible. Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'écriture et pas son sens.
Francesca Alberti, pour conclure, est-ce que vous diriez que le geste d'écriture est un geste de déconstruction des normes du langage, par exemple, ou même des normes du dessin, en fait, hein?
Un geste de déconstruction. Ça peut être un geste de construction. Je pense que, justement, d'une part, en fait, le fait de mettre l'accent sur le geste permet de regarder l'écriture en delà de son sens, et donc dans son dimension de mouvement, dans tous les affects qu'elle porte, et aussi justement, comme on l'a dit tout au long de l'émission, dans son rapport en fait au graphisme et donc au dessin, dans cette liberté de se configurer comme elle le souhaite, d'aller même vers le nonsense, de s'inventer des langues. Je pense aux verbigérations dont se servent plusieurs femmes justement qui avaient été considérées, qui avait eu des difficultés à s'exprimer et qui inventent par l'écriture une forme de parole. En fait, ils inventent des langues pour trouver une parole, un espace. Justement, beaucoup d'artistes de l'art brut, Emma Hook, Teresa Bonelamé, donc des femmes qui utilisent l'écriture comme une manière de déconstruire une autorité, de se trouver un espace de parole. Et ça me semble voilà un pouvoir, je dirais insoupçonné, et qui déplace la notion d'autorité de l'écriture vers une force de résistance, de décloisonnement en fait des frontières et des barrières.
C'était l'art et l'écriture. Par Sally Bonne. Un immense merci à mes invités, Agnès Geoffrey, Francesca Alberti et Androula Michael. À la préparation de l'émission, Sandrine Chaperon, Pierre Chabert, Joseph Julien. Prise de son, Claire Levasseur. Réalisation, Clotilde Pivin.